Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, bonne fin de journée avec RTL. Il est 18h39. On va donc défaire le monde maintenant avec Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info autrement, avec un autre regard en tout cas, jusqu'à 19h. Le menu du soir, Cyprien.
Ce soir, sujet tabou dans On défait le monde. On vous dévoile la face parfois sombre des footballeurs de haut niveau. Vous comprendrez pourquoi, derrière les strass, les paillettes et l'argent, la chute n'est jamais très loin. Au menu également, Molière, c'est très surcoté, une compète d'escrime à l'EHPAD et la France du fromage en deuil. On défait le monde la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence évidemment avec le son du jour.
J'ai toujours rêvé d'être footballeur.
Ça a l'air trop bien d'être footballeur, sauf que, bah pas forcément. Ce soir, on parle foot, mais hors des terrains. On a voulu s'intéresser à un équilibre psychologique qui semble parfois fragile chez certaines stars du foot. On vous parlait hier des états d'âme de Neymar. Ajoutez à cela des joueurs qui animent la rubrique judiciaire. Procès la semaine prochaine de l'affaire dite de la sextape impliquant Valbuena et Benzema. Benjamin Mendy toujours en prison accusé de viol. Ou Lucas Hernandez convoqué par la justice espagnole.
On a donc tenté de comprendre ce qui se cachait derrière l'image de vie de rêve de ces jeunes sportifs qui font la une des journaux, environnement, pression. On s'est demandé si leur métier, leur statut pouvait provoquer des failles psychologiques et expliquer d'une certaine manière certains comportements.
Et pour comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un certain footballeur, on a contacté Makis Chamalidis. Il est psychologue du sport et auteur notamment de Champions dans la tête. Et d'après son expérience, pour arriver au niveau de performance de ces très grands champions, il faut dès le départ avoir un état psychologique un peu particulier.
On ne peut pas aller en haut de l'Everest en pensant la vie est belle, peace and love. C'est des gens qui sont habités, qui sont investis d'une mission depuis tout petit. C'est des profils qui fonctionnent aussi sur un mode souvent obsessionnel. Des gens qui ont une revanche à prendre sur la vie, qui ont des choses à prouver à eux-mêmes ou à d'autres. Ils sont sur le fil du rasoir. Ils sont passés par des moments de leur adolescence où les autres traînaient dans les centres commerciaux. Eux, ils allaient s'entraîner. Il faut à un moment donné sortir les coudes. Et c'est vrai, c'est aussi ça qui caractérise le champion. Il ne se laisse pas faire, il domine. Et parfois, ça peut déborder, effectivement.
Donc, dès le début, il y a une sorte de fragilité mentale. Je note cette phrase. Ils sont sur le fil du rasoir.
Oui, sur le fil du rasoir. Ajoutez à cela une très grosse pression de la performance au quotidien, des faits et gestes épiés en permanence, beaucoup, beaucoup d'argent très jeune, et c'est là que ça peut sérieusement déraper.
Comme on est mis sur un piédestal, on est aussi un peu dans la toute-puissance et on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est des gens qui peuvent, à un moment donné, perdre le sens de la réalité parce qu'on devient, dans certains sports, vite jet-setter, où il est question que de montres, de nanas, de voitures et de projets immobiliers, ils peuvent après transgresser des règles et se retrouver en prison.
Bon, alors comment faire pour que ces jeunes footballeurs se maintiennent dans une forme de réalité?
Là, sans surprise, il faut bien s'entourer, sauf que visiblement, là aussi, c'est pas si simple.
C'est une question d'intelligence, une question d'éducation, voire même, je dirais, de QI sportif, c'est-à-dire à qui faire confiance. Est-ce qu'on écoute le dernier qui a parlé? Est-ce qu'on se promène sur les réseaux? Et là, je pense que c'est déjà une grande erreur. Ou est-ce qu'on a autour de soi une forme de garde rapprochée, des gens peu nombreux, mais qui sont à la fois compétents et à qui on peut faire confiance? Et je pense que tous les footballeurs, ils n'ont pas cette intelligence, si j'ose dire, de savoir quel est le meilleur entourage pour eux.
Footballeur, tout de suite, ça fait beaucoup moins rêver.
Mais c'est compliqué.
Je regrette beaucoup moins d'avoir raté ma carrière de footballeur professionnel à l'Olympique de Marseille.
De ne pas l'avoir commencé, on l'a dit.
Merci Damien, cher réalisateur, toujours bienveillant.
RTL, sous les radars.
Allez, tous les soirs à cette heure-ci, dans des faits le monde, une info passée inaperçue ou onopremerkt, comme on dit en néerlandais.
Non, c'est grotesque. C'est grotesque, il est polyglotte. Avec ce soir, Céline, la famille royale des Pays-Bas, d'où le. Voilà.
Qui vient. Onopremerkt.
Comment vous dites?
Onopremerkt.
Voilà. Donc ce soir, la famille royale des Pays-Bas qui vient de prendre une décision vraiment historique.
Et moi, je vais vous la faire en français.
Merci.
Alors que le pays fête cette année les 20 ans de la légalisation du mariage homosexuel, le gouvernement vient de décider que l'héritier du trône avait droit, lui aussi, d'épouser une personne du même sexe, et cela sans perdre ses droits à la succession comme n'importe quel néerlandais. Donc, en fait, la question s'est posée après le livre d'un spécialiste en droit constitutionnel qui estimait que la princesse héritière, Amalia, 17 ans, devrait être exclue de la succession si elle épousait une autre femme. Le gouvernement vient donc d'en décider autrement. Bon, en revanche, sur la question des successions des enfants d'un couple homosexuel, là, la question n'est pas encore tranchée. Et tout ça, de toute façon, est à ce stade purement théorique, puisque la princesse Amalia n'a pas exprimé cette demande.
D'ailleurs,
on connaît très peu de choses en fait, sur sa vie privée. On sait seulement qu'elle a renoncé en juin dernier à ses droits à un revenu annuel d'1,6 million parce qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de recevoir cette somme, 1,6 million d'euros, avant d'assumer ses responsabilités royales, et alors que d'autres étudiants étaient confrontés à des difficultés financières, quelqu'un de normal.
Et là, nos auditeurs n'ont pas pu voir la tête d'Arthur quand vous avez dit qu'elle a renoncé à 1,6 million d'euros. D'un coup, il a levé les yeux au ciel, je ne rentrais pas.
Arthur, il n'est pas très Amalia, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, une petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Avant le dîner, un peu de fromage en guise d'apéritif. À tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h47, vous écoutez RTL Soir, c'est presque l'heure de passer à table et on continue de défaire le monde avec la première info pour briller au dîner.
Non, on s'en est pas remis. En découvrant ça ce matin, en écoutant RTL, la mozzarella passe devant le camembert comme fromage préféré des Français. Et ça, Laurent, bah, vous l'avez pas digéré. Hein.
J'ai mal à ma France.
Ouais, toujours mal.
Les fans de camembert sommes en train de perdre une bataille, mais pire encore, nous ne sommes pas les plus grands consommateurs de fromage dans le monde. Oh. Et pourtant, bah, nous en consommons près de 26 kilos par personne chaque année.
Bah, c'est beaucoup déjà. 26 kilos. Personne.
Imaginez
c'est
toutes les raclettes
ça,
que
penser,
vous faites.
Voilà, ça va vite. Hein. Ça va vite hein.
Arthur, c'est beaucoup plus, par exemple.
Moi, même c'est pour la moyenne. En parmesan. C'est parmesan.
Mais le Danemark nous bat dans cette catégorie avec 28 kilos par personne et par an, suivi de l'Islande, la Finlande. Alors, je tiens peut-être l'un des responsables de cet échec, Pascal Praud.
Figurez-vous que je demande pas de fromage. Je n'ai jamais mangé de fromage de ma vie.
Ça compense avec Arthur.
Terrible révélation. Alors je lance un appel général à la remontada. Ce week-end, on tape à la porte des fromagers, des producteurs, des grandes surfaces pour sauver notre honneur.
Bah, on va surtout faire manger du fromage à Pascal Praud, non ?
Bah, oui, demain. Ça, c'est quand même étonnant.
Je viens avec un camembert.
On n'est même pas sur le podium du fromage.
C'est fou ça, on lui lance le défi.
Ouais. Le demain, camembert demain.
Demain, hop, 13h, les auditeurs ont la parole. Il doit manger un camembert. J'espère qu'il nous écoute, Pascal Praud. C'était la première info pour Briodini. Il y en aura évidemment une seconde tout à l'heure.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Allez, chaque soir, Céline Landreau à cette heure-ci tranche et désigne soit le winner, soit le loser de la journée. Alors ce soir, vous pleurez à cause du fromage, cher Laurent, mais les planches pleurent aussi.
Oui, un grand perdant, le théâtre français. Oui, Céline, quand la nouvelle scène parle de l'ancienne, franchement, on a mal à nos classiques.
Hein. Avec effectivement un hommage très particulier ce soir, celui de Capucine à Nava.
Salut la voix, moi c'est Capucine.
Capucine, révélée par Secret Story 6, puis qui a fait plusieurs émissions de télé-réalité.
Je ne savais pas qui c'était Capucine à
Nava. Je viens de la découvrir, je ne vais pas vous mentir Julien. Elle est maintenant comédienne et elle est donc à l'affiche de la pièce Le Switch au théâtre d'Edgar à Paris. Capucine à Nava, qui était l'invitée hier du Buzz TV Le Figaro pour une interview sans concession.
Avec une comédienne que l'on aimerait voir beaucoup plus souvent à la télévision. Pourtant, le petit écran, c'est là où le grand public l'a découvert.
Oui, mais aujourd'hui, on ne va pas parler télévision, non. Nous parlons théâtre, mesdames, messieurs. Oui, théâtre avec une critique fine du patrimoine national.
Pour moi, en fait, le théâtre, c'était chiant avant. Mais c'est vrai, quand j'étais au collège, au lycée, pour moi, théâtre, c'était... Comme vous dites, exactement. Molière, tout ça.
Oh, Molière, tout ça. Bon, même si...
Alors, j'admire Molière, hein. je suis fan de sa carrière.
grosse carrière, JB. Pardon, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, donc, avec quelques petits succès quand même. Hein. L'Avare, Le Malade Imaginaire, Les Fourberies de Scapin, L'École des Femmes, Don Juan. Des pièces qui ont su trouver un certain public, il faut le reconnaître,
mais... Qu'est-ce que c'est chiant! Et en fait, je suis contente de montrer aujourd'hui que le théâtre, c'est pas que chiant. Oui. Et qu'on peut aller au théâtre pour rigoler, pour passer un bon moment, pour s'évader. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait aussi au théâtre, pas que du Molière.
Oh, c'est vrai que les précieuses ridicules Tartuffe, c'était bof, hein. Ouais. Un peu pénible, pas vraiment drôle. Enfin, dans l'équipe d'On défait le monde, on a quand même été pris d'un doute. On a donc envoyé un petit SMS à Fabrice Lucchini pour savoir ce qu'il en pensait, lui.
Fabrice Lucchini.
Alors, bon, il était dans un train et il pouvait pas nous répondre à l'oral. Il nous a donc répondu par SMS. Il nous a dit d'abord qu'il ne connaissait pas sa collègue comédienne. Mais bizarrement, il n'avait pas la même analyse. Il nous parle, lui, d'un des plus grands génies d'observation psychologique, d'irrésistible drôlerie, et dont la langue est la plus charnelle du XVIIe siècle. chacun ses goûts, comme on dit. On peut quand même souhaiter à Capucine Anaf d'être aussi chiante que Molière.
Oui, oui, parce que...
Il a fait une belle carrière.
Belle carrière. Je suis fan de sa carrière à Molière. Ça pourrait être sympa, une petite pièce avec Fabrice Lucchini et Capucine Anaf ensemble.
Ah, ce serait sûrement déroutant.
Ça peut être une idée. Merci beaucoup, Céline. Une petite pause et dans un instant, une nouvelle info. Donc, pour briller au dîner, on va se plonger dans l'histoire du Tour de France. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h53, belle soirée avec RTL. On continue de défaire le monde et voici une nouvelle info pour briller dans quelques minutes au dîner.
On va pédaler un peu, oui, parce que le parcours... C'est contractuel, c'est le Tour de France. Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce matin. Les coureurs partiront de Copenhague, au Danemark. Bon. Mais Arthur, vous allez nous parler d'un autre tour, celui de 1908.
Eh oui, Cyprien, parce que cette année-là, une femme, Marie Marvin, souhaite s'inscrire au départ de la Grande Boucle. Refus catégorique d'Henri Desgranges, le boss du Tour à l'époque. Ouais. Qu'importe, la trentenaire décide de pédaler seule, clandestinement, derrière les hommes.
C'est génial.
À chaque étape, elle part 10 minutes après eux, en suivant le même parcours. Formidable. Et à l'époque, bon, c'était quand même du très très costaud le tour. Hein. 4488 km en 14 étapes, sur des vélos franchement rudimentaires. Alors non seulement elle réalise parfois les mêmes chronos que les messieurs, mais elle réussit à boucler le tour avec les 36 rescapés du peloton. Son exploit est monumental et il va traverser l'Atlantique. Le Chicago Tribune parlera de Marie Marvin comme étant la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc.
Okay. C'est une super info pour
petit calcul. 4488 km en 14 étapes, ça fait quand même des étapes en moyenne de 320 km.
Ouais.
320 km l'étape, ça calme.
Sur des vélos à pignon fixe.
Hein. Oui, les vélos de l'époque, ça devait être quelque chose quand même. C'est une belle info pour briller au dîner.
Et elle n'a pas eu la même fin que Jeanne d'Arc.
Oui.
Effectivement, c'est bien de le préciser. Très belle info pour dîner, mais pour briller au dîner. Mais j'aime beaucoup aussi les kilos de fromage. Donc je vais déclarer un match nul.
Un petit camembert au four ce soir chez vous.
Merci. Sachez qu'on continuera de parler cyclisme dans quelques minutes, juste après 19h. Notre invité sera Christian Prudhomme, le directeur du Tour, et on parlera cyclisme et masculin et féminin, parce que vous savez qu'il y a une polémique sur les primes, la différence du montant des primes entre hommes et femmes. 50 000 euros pour le vainqueur, la gagnante
féminine
sur le tour féminin, et 500 000 euros, 10 fois plus, pour le vainqueur du tour masculin.
C'est bizarre dans ce sens-là.
Il n'y a pas les mêmes sponsors, enfin bon, on va pas faire un débat là-dessus.
On posera la question à Christian Prudhomme dans quelques minutes sur RTL, le directeur du tour.
Marche ou rêve.
Et tous les soirs, à cette heure-ci, le coup de fil qui redonne foi à l'humanité, mais dites donc, c'est jeudi.
Et le jeudi, c'est... Il va y avoir du sport. Mais oui, on parle de vos initiatives ayant un rapport avec le sport. Et ce soir, Laurent, alors ça c'est tourné en direction l'EHPAD à Fleury-Moucheté.
La pratique de l'escrime, c'est l'initiative très sérieuse lancée par Laurent, maître d'armes en Normandie. Et chaque semaine, il se rend dans plusieurs établissements pour personnes âgées. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors racontez-nous, comment se passe une séance?
Alors d'abord, au niveau de l'organisation, on a des groupes de 10 à 20 résidents qui font une heure d'escrime par semaine. On est aidé pour cela par du personnel de l'établissement, des ergothérapeutes, psychologues et animatrices. Et voilà, donc ça se passe sous forme d'échauffement d'abord, de leçons individuelles et de jeux divers à partir de l'escrime, quoi.
Et comment vous est venue l'idée d'aller en maison de retraite? Parce que l'escrime, c'est quand même super physique comme sport.
Alors en fait, l'idée, on a une image de l'escrime très physique, mais il faut bien comprendre que le travail des jambes et le travail de la main et du bras sont complètement différents. On a un travail qui est très puissant au niveau des jambes, où on a beaucoup de vitesse, de souplesse, etc. Mais le travail de la main, c'est en relâchement, c'est en amplitude articulaire du bras. Donc ça se prête très très bien à la pratique, même pour des personnes âgées. Nous, on va travailler la motricité fine à partir de l'escrime et des exercices qu'on peut faire. On va travailler aussi en ambidextrie, c'est-à-dire on travaille les deux mains. Contrairement à l'escrime classique, on va rester sur une main. Là, on peut travailler des exercices simples avec les deux mains.
Et alors, vous faites quoi? C'est l'épée, le fleuret, le sabre? Pour ceux qui regardent les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous faites, vous, comme arme?
Alors, nous, on fait du fleuret. Alors, au début, j'ai commencé avec des fleurets en plastique. Et puis maintenant, je suis arrivé avec des fleurets en métal. Parce que ça marchait bien. Et puis, c'est un petit peu plus lourd. Donc, on augmente un petit peu la difficulté, mais ça passe bien, ça passe bien. Donc on ne touche que le ventre, on ne touche pas les bras ni les jambes. Alors les résidents sont assis et on est à une distance d'environ 1 mètre, 1,50 m. Donc il y a un vrai rapport en fait qui se crée avec la personne, un vrai dialogue à travers le fleuret.
Et justement, nous allons demander à Josiane, l'une des participantes à l'activité, on va voir ce qu'elle en pense. Bonsoir Josiane.
Bonsoir à vous.
Vous avez 90 ans et l'escrime, c'est vraiment une découverte.
Ah bah oui, tout à fait. Mais il y a longtemps que mes petits-fils me disent « tu devrais faire de l'escrime ». C'est sympa, ça passe un bon après-midi.
Josiane, est-ce que vous avez obtenu une médaille lors de l'activité ?
C'est pas une médaille, c'est un diplôme, n'est-ce pas ?
Ah !
Chaque chose en son temps.
Est-ce que ça vous fait du bien de faire de l'escrime ?
Oh bah oui, puis c'est sympa, ça nous permet d'être tous réunis. Alors, c'est intéressant. Ça permet qu'on se fasse plus connaissance que si on est chacun dans nos chambres.
Bah c'est super.
De l'escrime en maison de retraite, vous ne rêvez pas, c'est l'initiative de Laurent en Normandie. Merci à vous, merci Josiane.
Bonne soirée.
Bonne soirée Josiane, et merci à Laurent également, c'est super effectivement, comme vous le dites Cyprien. Oui. Merci à vous l'équipe dont défait le monde. On rappelle que demain, 18h40, on refera nos
régions.
Parce que c'est vendredi, et que tous les vendredis, on refait nos régions. On sera évidemment au plus près de chez vous, les auditeurs, de vos combats, de vos initiatives. Merci les amis.
À lundi.
Dont défait le monde.